L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Je vais l'appeler Lily, avec un éventail à grandes plumes. Qu'est-ce que t'en penses ? Lance Gerda. Nous sommes à Paris, dans un appartement situé non loin de la butte Montmartre. Baigné par le soleil, ce petit atelier qui sent la peinture, lieu de tous les possibles, est aujourd'hui en totale effervescence. Gerda Wegener est une artiste féministe du début des années folles qui se sert de son pinceau comme d'une arme. Le but de ses œuvres ? Dénoncer les discriminations, choquer l'opinion réac, mieux, promouvoir la diversité, valoriser les différences, montrer au fond que ce qui n'est pas similaire à soi est beau, grandiose. Enivrée par le parfum de son huile sur toile, elle attend la réaction de son modèle à l'annonce du titre de son tableau. D'un hochement de tête et dans un sourire aussi blanc que la neige qui recouvre les sommets en hiver, la femme qui se tient dans le divan en face d'elle acquiesce. Grande, blonde, comme elle. Elle porte une tenue chatoyante et tient dans les mains un grand éventail vert qu'elle pose sur son épaule. Elle sourit. D'une expression qui témoigne du contentement, mieux, de la plénitude. Celle d'être exactement à l'endroit où l'on voulait être. D'être la personne que l'on souhaitait être. Lily, comme Gerda l'appelle, est son mari. Né Hénard, il ne s'est révélé qu'en enfilant une robe un beau jour de création. D'abord né homme, sa renaissance s'est faite en tant que femme. Mais plus qu'un travestisme, ce renouveau est total, complet. Hénard ira jusqu'à se faire opérer totalement. Nous sommes le 16 mars 1920 et, sous les toits parisiens de ce début de printemps, Hénard et Gerda assistent à la naissance de Lily. Il est 14h. C'est leur H de mon histoire. Vêtue d'une robe courte de couleur rose, gantée de blanc et maquillée à la mode, Hénard Wegener n'en est pas à son coup d'essai. C'est pas la première fois qu'il porte des vêtements féminins, qu'il joue avec les apparences pour tenir le rôle de modèle pour sa femme, artiste peintre comme lui. Mais depuis longtemps déjà, son sentiment est différent lors de ses séances. Il se sent plein, comme transporté dans une réalité alternative dans laquelle il serait réellement lui-même en devenant elle, Lily Elbe. Un nom que Gerda a lancé un jour comme une boutade à la fin d'une session. Tout a commencé avant le début de la Première Guerre mondiale. Les oiseaux, comme aujourd'hui, chantaient de jolies mélodies tout près des fenêtres. Gerda Wegener attendait un mannequin féminin qui n'était jamais arrivé. Devant le désarroi de son épouse, Hénard avait alors proposé de la remplacer, quitte à se grimer. Et en enfilant robe et talons hauts, l'histoire avait pu commencer. Et la révélation avait été immédiate. Au contact du satin sur sa peau, grâce aux postures qu'il prit suivant les indications de sa femme, Hénard s'est laissé charmer, perturbé par des sensations et des émotions qu'il n'avait jamais connues. Il avait pourtant été complètement épanoui en tant qu'homme lors de la première vie qui fut la sienne. En 1904, Hénard a rencontré Gerda, dont il est tombé éperdument amoureux. Fou de son côté rebelle et surtout de cette force militante qu'elle insuffle dans son art. À partir de ce moment-là, les amoureux ont commencé à voyager de Berlin à Paris, avant de s'installer dans la ville lumière, celle de tous les possibles, celle qui dégage le souffle du renouveau depuis la fin de la guerre. Ils furent tous deux les meilleurs amis d'un certain Guillaume Apollinaire, qui lui aussi faisait chanter les oiseaux avec ses mots. C'est lui aussi, comme d'autres, qui a encouragé Hénard à devenir ce qu'il était au fond de lui-même depuis toujours, une femme. Au loin, les cloches de la basilique du Sacré-Cœur résonnent sur toute la butte. Cet endroit est magnifique et il est le lieu de toutes les inspirations pour Gerda. À force de coups de pinceau qui paraissent déstructurés, elle appose les derniers détails de ce tableau au double sens de lecture, où ce que l'on voit n'est finalement qu'un mirage. Elle est habituée à ce genre de coups d'éclat. D'ailleurs, ses acheteurs, tout comme ses admirateurs, savent bien qui est le véritable modèle de ses œuvres. L'art de Gerda transgresse toutes les convenances de la société face à laquelle elle tente de s'affirmer. Depuis 1913, l'opinion sait que c'est son mari Hénard qui se cache derrière ce maquillage et ses postures sensuelles. C'est d'ailleurs ce qui avait provoqué en premier lieu la nécessité pour le couple de quitter leur terre natale. Copenhague et sa bonne société n'étaient pas prêts à comprendre que derrière des femmes fatales représentées peut en réalité se cacher un modèle bien masculin, du moins dans son corps. Frustrée par ses relents de souvenirs désagréables, Gerda pose son ustensile de peinture et se tourne face à la fenêtre. Instantanément, le soleil éclaire son visage. En fermant les yeux, l'artiste capte avec volupté cette chaleur qui transcende les âmes. Hénard et Gerda ont tous deux trouvé refuge à Paris dans ce petit appartement qu'ils n'ont pas quitté depuis. Et ensemble, ils ont appris à vivre avec Lily. Mieux, ils l'ont créée en la voulant tous les deux. Hénard pouvait, lors de ces moments hors du temps, respirer et vivre tel qu'il le souhaitait réellement. Rien n'était plus beau que cela. Tant pis si les Danois bien habillés des rues de Copenhague ne pouvaient pas le comprendre. Après tout, c'était qu'un détail, l'opinion des autres. L'important, Hénard et Gerda l'avaient bien compris d'entrée de jeu, dès les premières discussions à ce sujet. L'important, c'est d'être soi. Voilà maintenant qu'un merle un peu plus téméraire que les autres s'est posé sur la fenêtre et observe d'un œil curieux l'artiste qui est retourné à ses occupations, à sa peinture. Hénard, enfin Lily, s'est relevée et regarde maintenant bien devant elle. Elle fume une cigarette et son rouge à lèvres, délicatement posé, s'accroche au filtre immaculé qui prend une couleur rougeoyante. Ses yeux brillent. L'émotion qui la gagne, toujours la même à chaque séance de pause, la fait légèrement trembloter. Elle est reconnaissante à Gerda de n'avoir rien eu besoin d'expliquer. L'acceptation de qui elle était réellement au sein de son couple a été la chose la plus évidente et la plus facile qui soit. Gerda a été le moteur de son affirmation en tant que femme. Lily Elbe était née véritablement non pas d'une, mais de deux personnes. Au fond, ce trio, si l'on peut dire, puisque Hénard réapparaissait à des moments bien particuliers, cohabitent naturellement dans leur vie quotidienne. Lily Elbe, dehors, regarde les toits de Paris baignés de soleil, tire sur sa cigarette avec plus ou moins de vigueur et repense à son évolution personnelle. Ce qui n'a d'abord été qu'un jeu au départ, une sorte de défi, est devenu une seconde peau. Et puis, dans cette seconde peau, Hénard a compris qu'il était Lily depuis toujours. Depuis lors, elle est devenue, plus que la muse artistique de sa femme, la raison d'être d'une existence qui ne pouvait plus se satisfaire d'une forme charnelle qui ne lui convenait plus. Cette affirmation à Paris a pris une nouvelle ampleur. Depuis quelque temps déjà, il arrivait à Lily de sortir au bras de sa femme, qu'il a présentée alors aux yeux du monde comme la sœur de son mari. Mais tel un électrochoc, aujourd'hui, Lily Elbe comprend soudain qu'elle en veut plus. Elle veut prendre son envol définitivement, se détacher de la figure d'Hénard qui plane sur elle comme un fantôme. Et puis au fond, choisir, c'est renoncer. Et aujourd'hui, Lily choisit de se séparer d'Hénard, de détacher cette chaîne qu'elle traîne aux pieds. C'est, après tout, le propre de toutes les renaissances. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une mort. Notre histoire commence dans cette même ville que nous venons de quitter. Paris et ses quais de Seine. Paris et ses dômes dorés. Paris et ses artistes. Nous sommes au milieu des années 20, en plein milieu d'une nuit comme seule la capitale du pays des Lumières en a le secret. Les années folles battent leur plein et apportent leur lot d'insouciance. La butte Montmartre est le lieu qui accueille tous les plaisirs, de l'expression artistique la plus diversifiée à la plus étincelante. Les fêtes qui se donnent là sont réputées dans le monde entier. On vient des quatre coins du vieux continent pour sniffer de la poudre blanche et danser dans les cabarets les plus en vue. Dans les rues, rires et musiques diverses et variées se mélangent pour former un melting pot endiablé. Cela agit comme un antidote après une période de guerre mondiale qui s'est refermée il y a quelques années avec un fracas assourdissant. Les cafés les plus en vogue restent ouverts tard, de la coupole à la rotonde. Les femmes aux cheveux courts, coiffées à la garçonne, fument des cigarettes longues sur des airs jazzy. Boom culturel, libération des mœurs, voilà le Paris des années 20. Celui de Dali, Braque, Modigliani et Kiki le Montparnasse. Depuis peu, c'est Joséphine Baker qui enflamme toutes les scènes de son déhanché magique et de sa voix unique. Paris est une fête, disent celles et ceux qui la vivent comme une drogue. Et ils ont raison. Paris, dans les années 20, est une véritable machine à distribuer du bonheur pour qui veut bien le saisir. C'est dans cette ambiance que nous entrons dans un des cabarets les plus connus du monde. Le Moulin Rouge. Maurice Chevalier, Mistinguette et tous les autres sont là, fidèles au poste. Le tout Paris s'y est réuni pour les voir eux. Comme tous les soirs, le lieu est bondé, plat à craquer, bourré d'artistes en tout genre. Et là, nous pouvons apercevoir André Breton, le père du surréalisme. Là, certains des musiciens de Joséphine Baker et un peu plus loin, à une table au fond, deux femmes sont entourées de leurs amis. Ah, elles s'appellent Gerda Wegner et Lily Elbe. Depuis quelque temps déjà, Hénard n'est plus qu'un lointain mirage, dans la peau duquel il est difficile de revenir lors des obligations officielles. Lily s'est affirmée pour preuve. Elle commence à sortir sous son vrai nom, sans utiliser les subterfuges d'antan. Non, non, Lily n'est pas la sœur d'Hénard. Elle ne fait qu'un avec lui. Elle est lui. Ou plutôt, il est elle. Ça dépend des jours et des convenances. Leur cercle d'amis le plus proche sait que la transition est en cours, qu'elle est bien réelle et surtout qu'elle n'est en rien le fruit d'une lubie. Cette première étape franchie est loin d'être la dernière pour Lily qui danse avec sa femme sur des airs dont on perçoit déjà les influences de demain. Elles adorent Paris. Elles aiment cette liberté d'esprit et d'action qu'elles peuvent avoir. La ville lumière n'a jamais aussi bien porté son nom. Elle est porteuse de tous les espoirs. Lily peut respirer et vivre la vie qu'elle a toujours voulu avoir. De muse, mannequin des huiles sur toile de son épouse, de phénomène de soirée privée entre amis, la voilà qui éclate aux yeux du monde telle qu'elle est réellement. Et si ses amis pensent qu'elle a atteint la plénitude d'esprit et de corps en dansant et en s'amusant tous les soirs sur les pistes parisiennes, eh bien, elle se trompe. Non, rien n'est fini. Au contraire, tout commence. Lentement mais sûrement, Gerda et Lily commencent à discuter d'un projet qui peut paraître, en 1925, totalement fou. Novateur, du moins. Et puis, risqué aussi. Ce projet est celui de se faire opérer un changement de sexe. Et Lily serait la première. Rien n'est plus fort que la nécessité de s'affirmer et de se sublimer. Même pas les risques d'une telle intervention chirurgicale. Toujours plus fort, toujours plus loin. Lily Elbe, sans nul doute, se laisse porter par la certitude qu'elle ouvre une voie. Et elle a raison. Plusieurs années seront nécessaires pour tracer le chemin qui s'ouvre pour Lydie. Déjà parce que l'acte chirurgical du changement de sexe, au milieu des années folles, est quelque chose que personne ou presque n'a encore tenté. Ou presque, parce que la légende qui voudrait voir Lily comme la première femme à avoir eu recours à cette opération est en réalité totalement fausse. D'autres avant elle ont tenté la chirurgie de réassignation sexuelle, mais aucune d'entre elles n'a survécu aux opérations ni aux traitements hormonaux concomitants. La première femme à sortir vainqueur d'un parcours chirurgical et hormonal de ce type sera Christine Jorgensen aux États-Unis dans les années 1950. Mais revenons à nos moutons. La pratique, à l'époque de Lily Elbe, est pour le moins expérimentale. Peu de chirurgiens veulent affronter ce genre de processus pour le moins risqué. Du moins en France, les deux femmes ne trouveront personne pour les y aider. C'est via un réseau d'amis que Lily apprend qu'en Allemagne, un chirurgien a élaboré un protocole qui pourrait l'aider à changer de sexe. Le tout se déroule en 2 ans et il nécessite pas moins de 5 opérations. Mais elle est sûre de son choix. La liberté a un prix et pour elle, cela passe par la table d'opération. Gerda, de son côté, encourage Lily à se faire opérer pour vivre pleinement la vie qu'elle souhaite. Elle-même n'a aucun mal à s'affirmer homosexuelle. C'est l'amour qui triomphe, toujours. Certaines mauvaises langues se sont élevées, allant dans les années 1930 à la qualifier de veuve noire. Elle l'accusait de manipuler Hénard, de l'inciter à se faire opérer afin d'être connue et reconnue. Ces allégations mensongères et sans fondement sont des plus dangereuses et visent au fond à décrédibiliser le combat qui est celui de Lily. Durant plusieurs années, le couple va donc désespérer de trouver une solution. Et puis, un jour, Lily et Gerda parviennent à rencontrer Kurt Warnecross, le fameux médecin allemand. Ce dernier accepte de prendre le risque et propose à Lily de la prendre en charge sur plusieurs années. L'orchidectomie est réalisée en 1930, sous la supervision d'un sexologue. Derrière ce mot savant se cache l'acte chirurgical de retirer les testicules. Quelques semaines plus tard, une deuxième opération est menée. Elle vise cette fois à retirer le pénis et à implanter des ovaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les complications sont importantes. 2 passages supplémentaires sur la table seront nécessaires pour les lui retirer ensuite. Lily vient donc de risquer sa vie une première fois, et le couperet est tombé non loin de sa nuque. Mais peu importe, parce que Hénard, lui, définitivement, n'est plus. Lily Elbe est devenue une personne à part entière, tant dans sa chair que dans son esprit. Gerda est ravie de voir sa femme heureuse. Mais bientôt, le couple est rattrapé par la patrouille. Au début du mois d'octobre de l'année 1930, le Danemark, pays dans lequel elles se sont mariées, décide de faire annuler leur union. En effet, le mariage entre personnes du même sexe est une chose qui est encore très choquante pour les sociétés de l'époque. Lily, en devenant une femme à part entière, a fait son choix. C'est donc son couple qui doit être sacrifié. Il n'y résistera pas. Peu de temps après la décision de justice, les deux femmes se séparent. C'est la fin d'une idylle qui aura permis à Lily de se découvrir, de s'affirmer et de prendre son envol, comme une chenille qui devient papillon. Elle a abandonné sa chrysalide. Gerda aura été pour elle un réel soutien, et bien plus encore. Elle aura permis la prise de conscience, mais les épreuves de la vie, parfois, ont raison des couples les plus solides. Et c'est ce qui s'est passé dans leur cas. Dès lors, Gerda perd l'inspiration qui était la sienne. Elle peine à se renouveler dans son art et ses pratiques. Il lui faut un nouveau départ. Les deux femmes, ensemble, en viennent à la conclusion que la rupture est inévitable. Elle sera douloureuse. À peine remise de ses opérations difficiles, Lily, pourtant, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le dernier acte chirurgical se profile. Après cela, elle sera prête à vivre. Enfin.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur l'histoire hors du commun de Lily Elbe, artiste peintre née homme et devenue la muse de sa femme. D'abord dans le cadre d'un jeu de rôle à des fins artistiques, elle a ensuite entamé sa transition pour devenir pleinement Lily, pionnière du genre. Elle a la volonté de devenir une femme à part entière, même si cela passe par une chirurgie tout à fait novatrice. En Allemagne, à la fin des années 20 et au début des années 30, la muse s'opère et les changements dans sa vie se multiplient. En premier lieu, l'annulation de son mariage et sa séparation avec Gerda. Lily arrive maintenant à l'étape ultime de ses opérations, celle qui lui permettra enfin de devenir celle qu'elle a toujours été, une femme. Nous sommes à la fin du mois de septembre 1931 au Maroc. Gerda, le visage tourné vers l'astre solaire, a les yeux remplis de larmes. Derrière elle, son mari, un officier de l'armée italienne, à la moustache fine et au regard sévère, s'interroge. Voilà des heures que sa femme pleure et qu'elle refuse de lui parler. Des heures qu'elle se tient là, sur leur terrasse, une lettre à la main. Le courrier est arrivé de Paris. Il est signé d'une artiste danoise que Gerda a fréquentée durant l'insouciance des années 1920. La missive, assurément, est porteuse d'une mauvaise nouvelle. Gerda, les mains accrochées à la rambarde du balcon, s'est tue. On ne sait pas tellement qu'elle refuse de parler, mais étouffée par le chagrin, elle est dans l'impossibilité de le faire. Et puis, de toute façon, comment son mari, aussi compréhensif soit-il, pourrait-il comprendre son chagrin? C'est impossible. Gerda pleure à chaudes larmes parce que l'amour de sa vie vient de mourir. Elle vient de l'apprendre, là, en cette lettre laconique écrite en quelques mots. Une dizaine de phrases pour clôturer le chapitre le plus passionné de sa vie. Son cœur, fragile, s'est brisé. En une fraction de seconde, tout a disparu. Les sentiments, les objectifs, les valeurs, la volonté, tout, absolument tout est mort à l'instant où elle a lu la missive de son amie. Lily Elbe, la femme la plus courageuse qu'elle ait jamais connue, s'est éteinte. Ce n'est pas pour autant qu'elle aura échoué dans sa quête identitaire. Ça non, tout au contraire, elle est morte en tant que Lily Elbe. Et à cette pensée, Gerda, sous le soleil du Maroc, parvient à esquisser un sourire entre ses larmes. Lily Elbe, en effet, est décédée en Allemagne le 13 septembre de l'année 1931. C'est un arrêt cardiaque qui l'a précipitée dans la tombe à l'âge de 48 ans. En réalité, elle a contracté une infection à la suite de sa dernière opération et rien n'a pu être fait pour la sauver. L'infection a ensuite progressé jusqu'à son cœur et l'a emporté. Sans un bruit, en plein milieu d'une nuit fraîche de fin d'été. Elle venait d'écrire pour son livre à paraître ces quelques mots, lourds de sens et d'analyse de son combat. Notre hypothèse en tant que société selon laquelle notre catégorie de sexe, que nous ayons des organes génitaux masculins ou féminins, a des implications sur ce que nous aimerions. Ce que nous aimerions faire et le type de personne que nous serons. Que les gens sont également de deux types, la nature masculine et nature féminine. Cela n'a aucune base scientifique et les gens sont très différents les uns des autres. Alors j'essaie de passer du langage des deux sexes, qui sont similaires ou différents, à un langage qui signifie que nous sommes tous différents. Quelques semaines auparavant pourtant, l'optimisme était de mise. Les deux opérations précédentes avaient permis avec succès de retirer ces ovaires dont la greffe avait été si compliquée. Le chirurgien était persuadé de la réussite du dernier acte qui allait se jouer et confiant pour la suite des événements. C'est dans le courant du mois de juin qu'il pratique d'abord sur elle une vaginoplastie, couronnée de succès avant de réaliser une greffe d'utérus. À son réveil, Lily est une femme transformée et surtout accompli. Pendant quelques jours, les plus durs, ceux qui suivent l'opération, elle rayonne, satisfaite du résultat et de l'issue du combat qu'elle est persuadée cette fois d'avoir gagné. Mais le système immunitaire est une machine bien plus complexe, qui parfois joue des tours dramatiques aux plus courageux. Le chirurgien a fait ce qu'il a pu, mais ses pratiques sont encore très expérimentales à l'époque. Et donc, ce qu'on pouvait redouter arriva. Un rejet. Le deuxième en 2 ans, après celui des ovaires. Mais cette fois, le corps de Lily est fatigué. Impossible pour elle de maintenir un niveau de résistance assez élevé pour espérer s'en sortir. Elle glisse tout doucement vers la mort. Pour autant, Gerda a raison. En aucun cas, la mort de Lily est une défaite. Non, au contraire, la victoire est triomphale, mieux, éclatante. Jusqu'au bout du bout, Lily Elbe aura vécu. Elle est donc morte en portant en étendard sa volonté d'être soi, au sens le plus profond du terme. Cette existence, qui aura eu comme moteur l'objectif de changer d'identité pour pouvoir vivre en adéquation avec son moi profond, est aussi et surtout un modèle que beaucoup d'autres après elle vont suivre. Rien n'est fini. Tout commence. La mort physique de Lily Elbe n'est qu'une étape qui en annonce beaucoup d'autres.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée au destin de Lily Elbe, une femme née homme qui vient de mourir à la suite de complications après sa 5e et dernière intervention chirurgicale dans le cadre de son changement de sexe. Pionnière dans la lutte du droit des personnes transgenres, elle aura ouvert la voie à toutes les personnes nées dans le mauvais corps, de pouvoir espérer pouvoir s'affirmer telles qu'elles sont vraiment. Mais sa mort en 1931, si elle marque la fin de son histoire personnelle, ne la précipite en rien dans les abîmes de l'oubli. Bien au contraire. Certains artistes, qu'ils soient écrivains ou scénaristes, vont lui rendre hommage. Et ils vont en cela offrir à Lily Elbe une nouvelle renaissance, encore une fois. Nous sommes à Pasadena, tout près des montagnes de San Gabriel. Le soleil déjà se hisse le long des cimes et c'est tout doucement que l'État de Californie se réveille. David Ebershoff, lui, est actif depuis quelques heures déjà. Sa routine matinale est bien rodée. Toujours se lever aux aurores et écrire devant le jour qui se lève. Le rituel est immuable, indispensable à son bon fonctionnement. Mais aujourd'hui est une journée bien différente de toutes les autres. David est déjà sur la route, au volant de sa Ford, et file chez son marchand de journaux. Nous sommes le 14 février 2000 et il faut absolument qu'il puisse récupérer le New York Times du jour. Une chronique vient de paraître sur son tout premier livre édité. Quel chemin parcouru quand il y pense. Au premier carrefour, l'écrivain prend à gauche et se gare en double file, en enclenchant les warnings. Joe est là, fidèle au poste. Il a le Times dans les mains lorsque rentre l'écrivain. « Félicitations, David !» lance sobrement le gérant de la boutique en lui présentant le journal. Il est en première page. Une photo de la couverture de son roman, The Danish Girl, l'accompagne. Ah, Lily, quelle aventure! Dans un sourire et sans un mot, David Ebershoff se saisit du quotidien et file dans sa voiture. À la radio locale aussi, la journaliste à la voix de Cressel évoque son ouvrage. Quel sentiment extraordinaire que celui qu'il ressent ce matin-là. Oh, pas seulement pour la reconnaissance de son travail, non, c'est bien plus grand que ça. Grâce à lui, à son travail, Lily Elbe sera bientôt un nom qui sera sur toutes les lèvres. Et David, évidemment, est de ceux qui pensent que son histoire le mérite. Le fait historique est qu'en 1931, un peintre danois nommé Einar Wegner est le premier homme à être transformé chirurgicalement en une femme, en changeant également son nom en Lily Elbe et finissant par divulguer son histoire à la presse. Dans The Danish Girl, David Ebershoff utilise les éléments bruts de l'histoire de Wegner Elbe pour convoquer un riche univers imaginaire dans lequel l'événement principal est moins la transformation sexuelle elle-même que la façon dont cette transformation a affecté les autres. Trois fois de suite que David relit ces quelques mots à sa femme qui vient de se réveiller. Richard Bernstein, le journaliste du Times qui a rédigé cette chronique, a contacté l'auteur il y a quelques semaines de cela. Amateur d'œuvres d'art, il a entendu parler de cette histoire absolument fascinante qu'est celle de Lily Elbe. Et comme David venait de son côté de rédiger un roman inspiré de ce destin unique en son genre, les planètes se sont alignées. Dehors, les feuilles chantent sous l'impulsion du vent. Le bruit de la machine à café remplit la cuisine familiale pour la deuxième fois en moins de 30 minutes. David, lui, a les yeux rivés sur les mots élogieux du journaliste. Il sent l'émotion le gagner. Il n'en veut pas à sa famille de ne pas comprendre ce qui le traverse lorsqu'il écrit. Le processus de création est toujours quelque chose de très personnel, d'unique. De son côté, ce qui l'anime, c'est de s'engager dans ce qu'il juge être de nobles causes. Donner la parole aux moins exposés, mettre en lumière des souffrances injustes qui ne devraient pas torturer ceux qui les vivent. Alors pour lui, mettre en scène de manière romancée la vie de la première femme transgenre opérée, ça s'est imposé comme une espèce d'évidence. Se battre pour les communautés en recherche de reconnaissance et d'acceptation, l'enseignant en a fait son cheval de bataille autant qu'une opportunité d'écrire en roman. Sa tasse de café fumante dans une main, le journal dans l'autre, il entre dans son bureau et se laisse tomber dans sa chaise qui l'attend. Face à lui, la lumière du jour et les branches des arbres qui bougent de gauche à droite. Le vent souffle en ce mois de février en Californie et les montagnes, normalement si protectrices, ne parviennent pas à jouer leur rôle. Sur le bureau de David, des papiers et des brouillons ici et là s'empilent et forment des ordres que lui seul peut décrypter efficacement. Un élément parmi tous les autres, pourtant, est bien visible. Une photo, celle de Lily Elbe. Elle l'a accompagné durant tout le travail d'écriture. Seul, face à cette trace du passé, l'écrivain, sa tasse de café tremblant sous le poids de l'émotion, ne peut éviter de laisser échapper un sanglot. Bon, tout ce qu'il espère dorénavant, c'est que cette histoire, celle qu'il a écrite, et au fond surtout son histoire à elle, puisse un jour arriver sur grand écran. Patience, David. Tout vient à point, à qui sait attendre. La portée du roman de David Eborchoff fut bien réelle. Il glana de nombreux prix de littérature et surtout de nombreux projets d'adaptation furent évoqués. Il faudra cependant attendre 2015 pour qu'un projet cinématographique puisse voir le jour, avec le génial Eddie Redmayne en tête d'affiche. Oui, mais voilà. Différentes questions ont été soulevées à la sortie de ce film, qui fut accueilli plutôt froidement par la critique, principalement à la suite de la déformation de certains faits historiques. Cela n'a pas empêché les acteurs et actrices de l'œuvre d'être nominés dans de nombreux festivals. En fait, la question n'était pas tellement orientée autour de la qualité ou de la réussite du film, mais plutôt du choix du casting. C'est du moins ce que certaines voix ont pu mettre en avant. Comprenez bien, personne ne critique le talent de Redmayne en tant qu'acteur, mais l'acteur, cisgenre et hétérosexuel, a été jugé inapte à pouvoir représenter à l'écran une femme transgenre dans ses aspirations, ses souffrances et ses émotions. Bon, loin de moi l'idée d'entrer dans ce débat, mais le fait est que ces questionnements se sont posés à la suite de la sortie du film dans les salles obscures. Il est néanmoins évident que, de toutes les manières, et le roman, et le film qui a suivi, ont eu un bénéfice parmi tant d'autres, celui de promouvoir et de faire connaître au grand public ce destin absolument incroyable et méconnu jusqu'alors. Certes, ces deux versions de The Danish Girl ne sont pas des étendards parfaits de la cause LGBTQIA+. Certes, il y a des choses à en redire et des choix à discuter. Mais il serait de mauvaise foi de considérer qu'ils n'ont pas apporté leur pierre à l'édifice de la connaissance et de la compréhension de ce phénomène humain qui peine parfois encore aujourd'hui à être compris et accepté par une partie de la population. Le métier d'acteur consiste à se glisser dans la peau d'un ou d'une autre et de conter une histoire visuelle. Rien ne permet de dire d'ailleurs que Redman, dans le film, n'a pas réussi à le faire. Les nombreuses distinctions le prouvent. Même chose pour l'écrivain Eberschoff, qui lui non plus n'est pas une femme transgenre. Pour autant, les émotions et les questionnements qui y sont transcrits sont saisissants. Le talent permet tout au fond, et ses critiques, si elles sont légitimes, sont peut-être un peu trop vives. Le débat est ouvert, et comme sur chaque question sociétale, chacun et chacune aura son avis et ses arguments. Cependant, il est indéniable que la récupération de l'histoire de Lily Elbe aura eu des bénéfices sur sa transmission. Car au fond, cette histoire ressemble à bien d'autres. Lily a elle-même d'ailleurs, dans un témoignage bouleversant, laissé une trace de son histoire. « Man into Woman » est son autobiographie, sortie 2 ans après sa mort, 1933. Lire son livre, c'est comprendre sa différence. C'est analyser et observer les étapes de sa transformation. C'est toucher du doigt sa perception d'être, mais dans le corps d'un autre, et son irrépressible nécessité de devenir soi, au sens le plus pur et le plus général du terme à la fois. Lily Elbe aura été la première, ou l'une des premières, je ne reviens pas sur ce débat-là, à être allée au bout de ce processus, avec un courage et une dignité qui forcent l'admiration et le respect. Ce saut dans l'inconnu, oui, lui aura coûté la vie, c'est vrai. Mais au fond, est-ce là l'important ? Le principal, l'élément central même de son parcours, n'était-il pas de parvenir à être pleinement Lily Elbe ? De pouvoir respirer, aimer, rire et pleurer au travers de l'enveloppe charnelle qui lui correspondait le mieux ? De libérer ce « moi » intérieur qui, de manière évidente, était en souffrance dans le mauvais corps. Elle aura choisi la voie du courage et celle de l'inconnu. C'est le chemin que prennent tous les pionniers et pionnières. Aujourd'hui, elle est devenue l'égérie de toute une communauté qui se regroupe derrière son histoire pour également trouver le courage de s'affirmer dans un monde en constante mutation, en perpétuelle évolution, tant dans les mentalités que dans la nécessité de faire perdurer cette lutte pour l'affirmation de soi. Que l'on soit cisgenre, transgenre, que l'on se sente homme ou femme ou non-binaire, le but n'est-il pas de pouvoir vivre comme on le souhaite ? Quelle influence la société, les normes et les convenances établies doivent avoir dans cette quête d'affirmation ? Quelle est la place du soi dans le nous ? Rien n'est jamais figé et tout se transforme. C'est le principe même de l'histoire et du monde dans lequel nous vivons. L'intérêt premier est que chacun puisse y trouver sa place et y évoluer avec sérénité. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de notre héroïne du jour. C'est elle, au fond, dans cet ouvrage émouvant et sensible qu'elle a laissé à la postérité, qui explique le mieux ses motivations et sa nécessité de transformation. Un passage en particulier m'a touché et je vous le propose en conclusion. Très cultivée, Lily Elbe nous livre au début de son écrit sa lecture des événements mythologiques au sujet des personnes transgenres. Elle écrit ceci. Hermès, la chérie des dieux, avait un fils, et Aphrodite, la beauté divine, une fille. Les deux enfants étaient de parfaits modèles de beauté. Pourtant, ils ne s'étaient jamais vus lorsqu'un jour, ils s'affrontèrent dans le bois des dieux. La fille était immédiatement amoureuse du garçon, mais le garçon s'est enfui d'elle. Quelle que soit la vitesse à laquelle elle courait après lui, il courait encore plus vite. En désespoir de cause, la jeune fille divine se tourna vers Zeus et lui gémit son tourment d'amour. « Je l'aime, mon père, mais il m'a fui. Il n'aura rien à faire avec moi. Ô père, fais que je devienne un avec lui. » Et Zeus entendit la prière de l'enfant divin. Et il leva le bras. Et l'instant d'après, le timide fils d'Hermès se tint devant l'Olympien. Et la fille d'Aphrodite cria de joie et embrassa le jeune tremblant. Encore une fois, Zeus a levé le bras, sur quoi les deux se sont fondus l'un dans l'autre. Quand Hermès et Aphrodite cherchèrent leurs enfants, ils trouvèrent un enfant divin au sourire béat. « C'est mon fils !» s'écria Hermès. « Non, c'est ma fille !» s'écria Aphrodite. Ils avaient tous les deux raison. Et si tout était dit, hein ? Voilà pour ce récit particulièrement touchant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.